question personnelle à vous poser. Désirez-vous avoir une relation intime avec Jésus, même si cela signifie que vous devez abandonner vos traditions? La parole de Dieu va vous aider à répondre à cette question aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Nos questions s'adressent à vous aujourd'hui. Mais l'enseignement qu'on va recevoir va nous aider à baser nos réponses sur la Bible, la parole de Dieu. Voici les questions. Faites-vous confiance à Jésus ou le rejetez-vous? Quelle est votre relation avec la personne de Jésus? Avez-vous une relation intime avec lui? Est-ce que votre attachement à des traditions vous empêche d'avoir une relation personnelle avec lui? Croyez-vous que servir Dieu vous exempte de vos responsabilités familiales? Pouvez-vous voir que Jésus fait tout à merveille, même de nos jours? Vous avez peut-être des réponses à toutes ces questions. Mais une fois que le pasteur Régent Joly nous aura instruits dans chacun de ces sujets, vos réponses vont peut-être changer. Demandons à Dieu qu'il mette la lumière sur nos vies à travers ce bon enseignement des Saintes Écritures. Prions. Ô Dieu de lumière, on te demande de nous éclairer aujourd'hui par ta parole. Éclaire tout ce qui est ténèbres en nous, pour qu'on apprenne, Seigneur, ce qui t'est agréable, ce que tu désires pour nous, parce qu'on sait que tu aimes et que tu veux notre bien. Alors on se confie en toi et on s'attend à ce que ta parole transforme nos vies aujourd'hui. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, ce septième chapitre poursuit avec le thème principal de l'Évangile selon Marc, soit nous présenter Jésus comme un serviteur qui fait la volonté de Dieu. Jésus est un homme d'action et il fait des miracles qui peuvent retenir l'attention des Romains ou de toute personne qui aime qu'on se roule les manches et que le travail se fasse. Seul Jésus peut nous sauver et il est disposé à le faire. Plusieurs changements se sont produits dans la période de temps entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La période entre le retour de la captivité de la nation d'Israël et la venue de Jésus-Christ. Pendant cette période, Israël a vécu des événements comme jamais. De nouveaux groupes, dont l'Ancien Testament n'a jamais parlé, ont vu le jour. Les pharisiens, les sadducéens, le scribe et les hérodiens. Les scribes partir de bon pied, et Ezra était probablement le fondateur du mouvement. Ils étaient des professionnels qui interprétaient la loi. Malheureusement, au temps de Jésus, il en était rendu à couper les cheveux en quatre. Il se souciait davantage de la lettre de la loi que de l'esprit de la loi. Si nous avons des problèmes aujourd'hui dans notre société contemporaine, c'est que nous coupons aussi les cheveux en quatre avec nos lois et nos règlements. De plus, le système fonctionne avec une interprétation philosophique qui ne faisait pas partie de l'intention originale de notre loi. Donc, notre système judiciaire et notre système politique sont en désordre. C'est ce qui s'est produit avec la religion au temps de Jésus-Christ. Les pharisiens aussi partirent du bon pied. Le groupe fut formé afin de défendre les lois et les coutumes juives contre les influences étrangères. Ils étaient des personnes légalistes et strictes qui croyaient l'Ancien Testament. En politique, ils étaient nationalistes. Ils désiraient établir le royaume du ciel sur la terre. Les sadducéens regroupaient des personnes riches qui faisaient partie de l'élite sociale. Ils avaient peu d'intérêt pour les choses spirituelles. Ils voulaient se défaire de la tradition. Ils rejetaient le surnaturel et s'opposaient aux pharisiens qui acceptaient le surnaturel ainsi que l'Ancien Testament. Ils étaient proches des épicuriens grecs. Les hérodiens formaient un parti politique. ils étaient des opportunistes qui désiraient qu'Hérode demeure sur le trône, car ils en tiraient des avantages politiques. Cette revue du contexte social du temps de Jésus-Christ nous aidera à mieux comprendre ce qui suit. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Marc, chapitre 7, verset 1er. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Remarquez que Jésus a fait une impression si forte que ces hommes viennent de Jérusalem pour le voir en Galilée, où il exerce son ministère. Ils le suivront aussi à l'est du Jourdain, dans le pays de la Décapole, une région où il y avait 10 villes. Versets 2 à 4. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et, quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Un conflit se dessine à l'horizon au sujet de la personne de Jésus. Les disciples ont fait un rapport de leur exploit en revenant de leur mission, celle que Jésus leur avait confiée. Nous avons vu cela au chapitre 6. Maintenant, ce sont les scribes et les pharisiens qui viennent à Jésus. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il y ait des étincelles entre les disciples de Jésus qui l'aiment et les pharisiens, ainsi que leurs partisans qui veulent faire mourir Jésus. Ce fut toujours ainsi au cours de l'histoire. Il y eut toujours deux groupes, un qui fait confiance à Jésus, l'autre qui le rejette. Chers amis, j'ai une petite question pour vous. De quel groupe faites-vous partie? C'est une question cruciale. Je ne vous demande pas si vous êtes membre d'une église ou d'une religion, ou encore si vous avez participé à un rituel religieux. La question est celle-ci. Quelle est votre relation avec la personne de Jésus? C'est ça, la grande question. Maintenant, ces scribes et ces pharisiens faisaient partie d'une délégation avec le mandat d'épier Jésus. C'étaient des érudits envoyés afin de piéger Jésus. La façon dont Jésus se défendait démontrait sa divinité. Ses ennemis ont dit de lui, « Jamais homme ne parlait comme cet homme. » Rapporté par l'évangéliste Jean, chapitre 7, verset 46. Maintenant, ils n'ont éprouvé aucune difficulté à trouver de quoi blâmer Jésus, car celui-ci ignorait complètement leur tradition. Quelle était leur tradition? Ils ne reprochaient pas aux disciples un simple manque à l'étiquette, mais ils lui reprochaient de ne pas se conformer à la tradition qui était leur façon d'interpréter l'Ancien Testament. Marc explique aux Romains la coutume du rite de purification que pratiquaient les Juifs. Dieu avait donné beaucoup d'instructions à Israël au sujet de rituels de purification. Nous en trouvons beaucoup dans le livre de Lévitique. Par ces instructions, Dieu désirait leur enseigner une grande vérité spirituelle. Un pécheur doit être purifié de ses péchés avant de jouir d'une communion intime avec Dieu. Cependant, les pharisiens avaient développé une grande tradition qui se devait être une interprétation de la loi mosaïque, et même certains affirmaient que Dieu leur avait donné la tradition en leur donnant la loi. Éventuellement, il vint à y avoir un grand écart entre l'intention de la loi de Dieu et l'interprétation de cette loi selon la tradition. Donc, ce texte donne des détails au sujet de la tradition. Il existait un rituel afin de laver les coupes, les cruches, les vases d'airain et les tables. Cette tradition était un fardeau lourd axé sur les apparences. C'était de la religion poussée à l'extrême. On se préoccupait tellement des rituels qu'on en oubliait le but original, qui est d'enseigner qu'une personne doit se repentir et d'être purifiée de ses péchés avant d'avoir une relation intime avec Dieu. C'est encore comme cela de nos jours. Certaines personnes discutent des points de doctrine alors que nous devrions nous préoccuper d'abord de la personne de Christ. Poursuivons. Verset 5. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures? » En accusant les disciples, ils accusaient Jésus, car il était leur maître. Notez comment Jésus leur répond, « Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. » Verset 6. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce ne sont pas des paroles douces. Un hypocrite est quelqu'un qui joue un rôle. En grec, ce mot était utilisé par les acteurs au théâtre à l'époque. Les pharisiens suivaient des rituels sans goûter à la réalité que ceux-ci représentaient. Leurs paroles ne correspondaient pas à l'état de leur cœur. Leur cœur n'était pas plus touché qu'une marionnette sur les genoux d'un ventriloque. Mes amis, bien des gens ne font qu'assister à des cérémonies religieuses et à des réunions sans que le cœur y soit vraiment. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Aujourd'hui, les gens se préoccupent de credo, de la confession de foi, de la dénomination, des services religieux, publics, de la façon de s'habiller et même de la séparation d'avec certains groupes. Tout ceci peut être un attachement à des traditions sans relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Verset 7. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. L'adoration est sans valeur si la parole de Dieu est remplacée par des traditions d'hommes. Nous touchons maintenant le cœur du problème. Versets 8 et 9. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Jésus met le doigt sur le problème. Nous, on dirait, il met le doigt sur le bobo. Ils ont substitué leur tradition à la parole de Dieu. Une tradition peut avoir été instituée pour de bonnes raisons et être bien. Elle devient inadmissible lorsqu'elle remplace la parole de Dieu. C'est ce qui est arrivé aux scribes et aux pharisiens. C'est aussi pourquoi de nombreuses dénominations ne fonctionnent plus selon la parole de Dieu aujourd'hui. Premièrement, elles ont remplacé la parole par un credo. Ensuite, elles marchèrent selon les idées des hommes, leurs petits rituels religieux et leurs petites dénominations. Ce ne fut qu'une question de temps, et la parole de Dieu fut délaissée. Ceci s'est produit souvent dans l'histoire. Versets 10 à 13. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établi, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Jésus donne un exemple du problème. Si un homme voulait fuir ses responsabilités et éviter de supporter ses parents financièrement, il n'avait qu'à dédier ses biens aux prêtres dans le temple. Il n'était pas tenu de soutenir ses parents et ses biens allaient aux prêtres à sa mort. Jésus dénonce cette tradition qui annule la parole de Dieu, qui demande d'honorer son père et sa mère. Il faut faire attention de ne pas en faire autant aujourd'hui. Bien des organisations chrétiennes sollicitent nos contributions. Cependant, avant de leur donner, assurons-nous que nous prenons nos responsabilités, surtout envers notre famille. Jésus clarifie son point, versets 14 à 16. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Jésus fait une distinction entre l'externe et l'interne. Il met le doigt cette fois sur la réalité. La religion n'est pas une crème que l'on étend sur notre peau. Ce n'est pas quelque chose que nous mangeons ou évitons de manger. Versets 17 à 20. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. » Notez bien attentivement ce qui sort du cœur de l'homme. Versets 21 à 23. « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Chers amis, si vous jetez un coup d'œil sur votre entourage, vous verrez ce qui est sorti du cœur de l'homme au cours des dernières 24 heures. Adultère, vol, meurtre, tromperie, orgie, etc. Voilà tout ce qui sort du cœur de l'homme. Versets 24 à 30. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et, quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus est sorti du pays d'Israël. Une femme grecque, citoyenne de Tyr, vient à lui avec foi. Jésus accorde à la femme ce qu'elle demande, et on peut se demander s'il n'est pas venu dans ce pays pour répondre à la foi de cette femme. Versets 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Oui, chers amis, tout ce que Jésus a fait avait pour but d'augmenter la foi de ses disciples et de ses auditeurs. C'est la condition médicale de cet homme qui a déterminé la façon de procéder de Jésus. Il a premièrement ouvert ses oreilles afin qu'il puisse entendre. Après cela, il était impossible de garder la foule silencieuse. C'est ce miracle qui a donné une forte impulsion au ministère de Christ, qui avait déjà pris une ampleur gigantesque. La pression sur Jésus était très forte. Elle était humainement insupportable. Malgré la pression sur lui, les fardeaux de la multitude, les tensions, les longues journées de travail et les faiblesses du corps, la foule pouvait dire « Il fait tout à merveille ». Nous ne pouvons qu'être d'accord avec cet énoncé et y répondre avec un « Ainsi soit-il, ainsi soit fait, que ton œuvre merveilleuse s'accomplisse ». Avez-vous cet « Amen » venant de votre cœur? Est-ce que vous pouvez adhérer à l'œuvre de Dieu, disant dans votre cœur que tout est merveilleux? Chers amis, beaucoup d'entre nous peuvent s'étonner et même s'émerveiller devant l'œuvre de Dieu accomplie en la personne de Jésus. Mais cela ne devrait pas s'arrêter là. Jésus nous invite, tout comme les apôtres, à être non seulement des spectateurs, mais des ouvriers avec lui. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 9. Citation de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Chers amis, le Seigneur, aujourd'hui, nous appelle à le suivre dans le chemin du service et à œuvrer avec lui. Le Seigneur ne nous invite pas à vivre de façon oisive, mais plutôt à une vie active. Sauver pour le servir. Chers amis, acceptez l'œuvre de Dieu pour votre vie. Placez votre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ afin que vous puissiez être sauvés. Et par le fait même, vous accomplirez des œuvres qui honoreront et glorifieront votre Dieu. Chers amis, prochaine émission, Marc 8.
Merci, Régent. L'enseignement d'aujourd'hui me rappelle lorsque j'étais jeune. J'allais à l'église et j'y voyais toutes sortes de rituels selon les occasions, soit le dimanche ou à Pâques, à Noël, lors des baptêmes, des communions solennelles, des confirmations, des mariages, des funérailles. Puis étant donné que je venais d'un milieu qui n'était pas très religieux, je ne comprenais pas grand-chose de ce qui se passait. La plupart du temps, je pensais à autre chose ou à ce que j'allais faire en sortant de l'église. Je pensais à mes amis, à mes activités. Parfois, J'essayais de comprendre quelque chose qui m'approcherait de Dieu. Par exemple, je connaissais un homme religieux qui était ami avec notre famille. Et je lui posais des questions en pensant qu'il me dirait quelque chose de grandiose, dont lui seul aurait pu avoir une révélation de la part de Dieu. Mais je n'obtenais jamais de réponse qui aurait pu me faire connaître le Seigneur. J'étais déçue. Je n'étais pas très vieille quand j'ai cessé d'aller à l'église. Tout ceci pour dire qu'étant donné que je ne fréquentais pas l'église, bien, je n'étais pas attachée aux traditions de celle-ci. Puis un jour, j'ai rencontré Thérèse, une femme qui avait une relation intime avec Jésus. Elle s'est mise à me parler de lui. Et j'ai réalisé qu'elle avait les réponses à toutes mes questions, sans même que je lui pose ces questions. La tradition m'importait peu, donc je comprenais tout ce qu'elle me disait concernant l'amour de Dieu, sa justice, la vraie paix, la joie. Puis, quand le temps est venu de me repentir, ça a été facile pour moi de me reconnaître comme étant une pécheresse perdue qui avait besoin de ce sauveur merveilleux qu'elle me présentait. Et un après-midi au mois d'août 1977, j'ai dit « Seigneur, sauve-moi !» Et il l'a fait. J'ai reçu le don gratuit de la vie éternelle en croyant tout simplement que Jésus était mort sur la croix pour payer la dette de mes péchés. J'ai reçu le cadeau de la vie éternelle. Et par le fait même, une relation intime avec ce Jésus merveilleux, avec mon Dieu. Alors, mon ami, si les traditions t'empêchent de voir ce que Jésus veut te dire dans ton cœur, je t'encourage à oublier tes traditions et simplement à écouter son message d'amour pour toi. Mets de côté ces choses, même si tes intentions sont bonnes et que tu es une personne religieuse. C'est honorable d'être comme ça, mais tu as besoin de mettre toutes les traditions de côté et de te concentrer juste sur la personne de Jésus, sur son message d'amour pour toi. Jésus veut que personne périsse. Il veut que tous soient sauvés, et il s'adresse à toi en ce moment, personnellement, et il te dit, « Je veux faire de toi un enfant de Dieu, une enfant de Dieu. » Alors, oublie tes traditions et entends ce que Jésus te dit. Il dit, « Je t'aime et j'ai donné ma vie sur la croix pour toi. » J'ai tout accompli. Mon sacrifice à la croix est suffisant pour te donner ton billet, pour ta rentrée au ciel quand tu vas mourir. Alors laisse Jésus te convaincre. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Il veut te donner le don gratuit de la vie éternelle.
Caro, nous avons un camp de l'espoir qui se déroulera du 1er au 4 octobre 2003 à Shawinigan.
Et j'ai bien hâte d'y être.
Nous allons faire des sondages. La venue de ces gens seront annoncées dans votre journal local. Ouvrez-leur votre porte et votre cœur afin de répondre à ce petit questionnaire.
Et en plus, ils vont vous remettre une invitation pour une soirée gospel au Collège Shawinigan à 19h30, vendredi soir le 3 octobre. Suivi par un déjeuner de l'espoir samedi matin le 4 octobre à la Casa Grecque, place Birmans, Shawinigan à 9h.
Caro y donnera son témoignage, une vie transformée par la puissance de Dieu. Ces invitations, elles sont gratuites. La population de Shawinigan et de la Mauricie est invitée.
On veut vous rencontrer.
Venez-y, en grand nombre.
Donnez-vous du bon temps. Vous ne le regretterez pas, vous allez apprendre des choses extraordinaires sur la personne de Dieu, ce Dieu qui vous aime.
Pour nous rejoindre, au téléphone...
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647 et à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec G1G6P2.
Chers amis, c'est un rendez-vous.
À demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.